Bienvenue à la série Le Monde change, une série d'interviews, de reportages, de rencontres et de découvertes avec des gens d'ici et des proches qui nous témoignent des réalités d'ici et maintenant. Cette série est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Les défis de l'enseignement sont multiples et récurrents. Au fil des années, des changements de génération, de l'avancement des savoirs et des politiques, la formation connaît bien des transformations. Dans les pays en voie de développement, les défis sont d'autant plus grands. Yvonne Langford vibre au cœur de ces changements. Je l'ai rencontrée afin d'en apprendre davantage.
Je suis née à Havre-aux-Maisons, dans le canton de la Petite-Baie, dans une famille nombreuse. Je dirais aujourd'hui, en vieillissant, que je découvre comme ma principale richesse. J'ai travaillé une dizaine d'années dans le tourisme. Puis après ça, le cégep m'a fait de l'œil. J'y suis allée travailler comme enseignante presque une vingtaine d'années en histoire. Et finalement, j'ai évolué dans ce contexte-là pour arriver comme conseillère pédagogique à la formation continue où je travaille depuis une bonne dizaine d'années.
Quelle était l'attitude de vos parents face à la formation?
Je pense que les études, ça a toujours été très important pour ma famille, en particulier du côté de mon grand-père Thériault, qui était Félix au gros léger. On avait de la facilité, ça fait que ça nous ouvrait déjà la voie, mais il y avait quand même dans ce temps-là le défi d'envoyer aux études beaucoup d'enfants. Je me rappelle qu'à un moment donné, là, on était les 10 à l'école, là, entre la maternelle puis le cégep, là. Ça fait que moi, je suis la 5e là-dedans. Fait que moi, j'ai décidé d'aller faire des études pré-universitaires pour aller à l'université. J'étais la première de chez nous qui y allait. Mais quelque part, il y avait comme, on s'inquiète pas tout de suite, on y arrivera. Comment on va arriver à financer le fait d'être aux études? Fait que j'ai fait 2 ans à Rivière-du-Loup en sciences humaines, puis après ça, j'ai fait 3 ans en enseignement de l'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Quand j'ai été adulte, mais là, j'ai continué le 2e cycle, puis tout ça, mais ça, c'est plus tard.
Vous aviez le goût des études.
Un goût immense, je pense, depuis que j'étais toute petite, que mon jeu préféré, c'était la classe. Ça a toujours été là, les savoirs. J'avais comme un appétit, là, mais immense. Et finalement, c'est l'argent qui m'a arrêté là, au moment où j'étais jeune, que je finissais mon baccalauréat, parce que si j'avais pu, je pense que je serais restée là. Pour moi, si ça avait été un métier, j'aurais pu le faire toute ma vie.
Quand on pense à votre enfance, comment la qualifiez-vous?
Heureuse, dans la multitude. On était 10. Puis tu sais, des fois, quand j'y pense aujourd'hui, j'y pense plutôt dans le sens que le moi et le je étaient beaucoup moins gros dans ce temps-là. On n'était pas tout le temps en train de nous demander notre avis sur tout et comment on se sent et qu'est-ce qu'on voudrait. Puis d'être entouré, d'être avec beaucoup de monde. J'ai quand même apprécié, en vieillissant notamment, en allant aux études, d'avoir une chambre à moi. Là. Quand même, ça aurait été un fond de garde-robe. Là. J'étais tellement contente. On aurait dit aussi d'avoir un espace à moi, ce que j'avais pas beaucoup eu, mais en même temps, beaucoup de bonheur, de relations. Ces relations-là, bien des gens des îles qui me comprennent aussi, ça dure toute la vie, là. C'est une richesse pour toute la vie.
Je me rappelle d'avoir rentré chez vous puis d'avoir vu un magnifique piano.
Oui, il y a toujours eu de la musique, mais comme il y en avait dans la plupart des familles des îles, mais un piano, c'était relativement récent parce que quand on était plus jeune, on n'aurait pas eu le moyen d'avoir un piano. Le premier instrument vraiment de musique qui est rentré chez nous, c'est mon père qui a ramené une guitare, me semble, de la Pointe-aux-Loups. C'était un trésor incroyable. Mais au moment de sa vie où il l'a emmené, ça a fait en sorte que les plus jeunes, à partir du moment de l'entrée de la guitare, ont su jouer de la guitare, mais les plus vieux, moins. Mais comme bien du monde des îles, tu sais, le dimanche après la messe, à Noël, à toutes les occasions, en lavant la vaisselle, en faisant les tâches ménagères, c'est sûr qu'il y avait de la musique et des chansons. Je m'en rappelle d'aller aux fraises, je sais pas quel âge on pouvait avoir, dans ce qu'on appelait le parc chez Alva Amédée. On s'en allait là, 4-5 filles de chez nous, puis on chantait du début à la fin de l'après-midi, d'après moi, au moins de 1h à 4h30. Et on avait un répertoire illimité. Puis on allait chercher du lait chez mon oncle Léonce, on chantait, ça a toujours été ça. Là. Mais comme la plupart du monde des îles et des familles autour de nous autres, chez mon oncle René, c'était pareil. Voilà.
À la claire m'allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée.
Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai.
On était d'abord cette fille, avant deux garçons et finalement une fille. Ça fait que le début de la famille, là, c'était beaucoup des filles, fait que les garçons étaient vraiment plus petits.
Mais... Et la cueillette de tous les fruits des champs devait se faire chez vous avec engouement.
Avec engouement, mais avec aussi, il faut meubler là, l'espace dans le sous-sol là, qui est dévolu pour de confiture. Il faut en avoir pour tout l'hiver, pour 10 enfants. Ça donnait lieu à des activités intéressantes, comme par exemple, ce que beaucoup de monde des îles faisait, mais le dimanche, d'aller au Bleuet, dans la dune, puis d'aller ramasser des graines au slip au Havre-Robert, c'était ça.
En faisant un grand saut, vous êtes allé aux études ici au Québec, vous êtes allé à Trois-Rivières. À ce moment-là, est-ce que c'était clair pour vous l'orientation au niveau des études?
Dans le fond, je suis une passionnée, hein. Fait que j'ai eu un coup de cœur, même si je pense que, tu sais, la voie était déjà un peu ouverte avant. Mais en secondaire 5, j'ai eu Maxime Arsenault comme prof d'histoire du 20e siècle. Mais d'abord, il y avait l'histoire du 20e siècle. C'est comme si quelqu'un m'avait mis une paire de lunettes pour comprendre le monde dans lequel j'étais. J'ai trippé, là, je peux pas dire à quel point. Mais il y avait Maxime Arsenault qui était un gentleman, un homme super intéressant. Ça fait que ça avait été vraiment déterminant. Ça fait que pour moi, le bonheur, c'était d'être prof d'histoire. Là, déjà, l'éducation me passionnait beaucoup. Mais avec des doutes de « je suis-tu bonne, je veux-tu être un bon professeur, je veux-tu être une bonne enseignante ». Sortant des études, mais là, le marché du travail était l'envers de ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire bouche et tête. Ça fait que c'est comme ça que je me suis retrouvée à la recherche d'un emploi, puisqu'il fallait bien que je travaille, notamment pour payer mes dettes d'études. Je me suis retrouvée à l'Association touristique régionale, un passage que j'ai bien aimé aussi. Dans le fond, le marché du travail, ce qui te reste de plus riche, c'est les rencontres, là. Mais ça fait que Claude Richard, ça a été quelqu'un de vraiment super intéressant à rencontrer, ouvert sur le monde. Ça a été quand même très plaisant de travailler pendant toutes ces années-là, là.
Et là est arrivé l'enseignement au cégep de la Gaspésie des Îles, mais ici même, aux Îles-de-Madeleine.
Je suis arrivée parce que le cégep avait besoin d'un professeur d'histoire, puis j'ai commencé par un cours au début des années 90. J'ai enseigné pendant presque une vingtaine d'années. C'est un métier là, que j'ai adoré. Là. J'ai travaillé comme une folle, mais aussi j'ai tellement aimé faire ce travail-là. Puis il n'y a rien de parfait, ni dans ma manière de le faire, ni dans le métier lui-même. J'ai beaucoup aimé autant la partie de la discipline que j'enseignais, qui était l'histoire et les sciences humaines. Il y en a pour plus que toute une vie à explorer, à apprendre et à raffiner notre compréhension. Puis après ça, toute la partie pédagogie que je trouvais aussi intéressante que ma discipline. Comment y arriver, quoi faire faire, comment bien préparer les étudiants à aller à l'université.
Et par la suite, toujours dans le même domaine, vous avez décidé de transférer votre savoir, toujours par le biais du cégep de la Gaspésie et des Îles, à l'international.
Là, je fais de l'international, en fait, depuis 2013, mais depuis 2018 à temps complet. Les gens entendent souvent parler de l'international associé au cégep de la Gaspésie et des Îles quand nos étudiants, quand nos jeunes vont à l'extérieur. Mais dans la réalité, c'est un petit peu différent. Ce que je fais, moi, le cégep, finalement, décroche des projets. Il va réaliser des projets dans des pays étrangers, souvent financés par l'aide internationale. Donc, ça peut être soit vraiment de ce qu'on appelle un peu pompeusement de l'ingénierie pédagogique. Comment élaborer un programme, comment le mettre en œuvre, former les enseignants, comment gérer un programme et tout ça selon les méthodes pédagogiques qu'on utilise ici au Canada et qui fait quand même, qui fait l'envie de bien des pays du monde.
Qui fait référence.
Ouais. La deuxième, c'est vraiment des projets de développement communautaire, donc aller aider des communautés à se développer économiquement, surtout parlant. Et puis l'autre, mais j'y participe moins, c'est plus du transfert technologique, notamment dans les pêches. Surtout au Sénégal, mais je suis allée aussi en Haïti, au Maroc, et je travaille actuellement aussi deux projets en Tunisie que je coordonne depuis presque 3 ans.
Donc, c'est des pays francophones où on y parle français?
C'est des pays où le français, finalement, est espèce de langue de l'administration, la langue des études supérieures. Et je sais pas si vous imaginez, mais tu sais, ça participe quand même de la difficulté, du défi là, de l'enseignement supérieur dans ces pays-là, puisque la plupart du temps, la langue maternelle est pas le français, justement. Ça peut être l'arabe, ça peut être le wolof, le serrain ou le créole haïtien. Ça fait que là, autant pour les enseignants, pour les équipes écoles que pour les apprenants, mais le défi, c'est de le faire en français. Là, ça fait que c'est là qu'on arrive. C'est quand même une coche pas mal de plus complexe que ce que c'est ici. On va pas faire les choses pour le monde. On va les accompagner. Ça fait que de temps en temps, ça peut passer par voilà comment on élabore un programme ici, mais à chaque fois, c'est sûr qu'il y a toujours une adaptation qui est nécessaire quant à la façon dont on va le faire là-bas.
Comment on peut le réaliser avec les moyens qui est certainement différent?
Ouais, ça, les moyens sont extrêmement différents. J'ai vu des situations que je me dis, je sais pas comment je pourrais traduire ça à un enseignant qui est ici, puis qui constate les conditions dans lesquelles les enseignants utilisent là-bas. Non seulement les infrastructures, les classes, le matériel, les laboratoires. Par exemple, ils n'ont pas de personnel qui sont à leur service, ni dans les laboratoires, ni conseillers pédagogiques. Les équipes de cadre sont limitées. Les classes sont hyper nombreuses. Des fois, je me dis, mon Dieu, c'est quasiment l'envers de la situation dans laquelle on est. À l'université Cheikh Anta Diop, qui est la grosse université au Sénégal, qui est à Dakar, mais t'arrives dans des classes de 1000 étudiants. Il y a tellement la jeunesse. Des fois, dans ces pays-là, il y a plus de 50% de la population qui a moins de 20 ans. Je ne sais pas si vous imaginez le défi là, de démographie, là, ne serait-ce que de donner un minimum d'éducation à tous ces gens-là. Là, c'est vraiment impressionnant. Versus ici, où le problème est plutôt qu'est-ce qu'on va faire pour avoir du monde dans nos classes.
Ce sont des différences majeures. Je vous entends parler et je pense au proverbe « Ça prend tout un village pour élever un enfant ou un adulte en devenir. »
Moi, une des choses dont je suis convaincue, c'est que le métier d'enseignant, c'est pas un métier de solitaire, c'est un métier d'équipe. Il y a personne qui peut prétendre qu'à lui tout seul, il va faire la différence, il va former quelqu'un. Ben non, c'est un travail d'équipe. Puis il y a des fois des résultats qui sont franchement épatants. Entre autres, là, le travail que le Cégep La Gaspésie et des Îles fait dans un archipel qui s'appelle les îles du Saloum. C'est dans le sud du Sénégal. Faut dire que le Cégep y est sûrement depuis presque 20 ans. Là. Donc, ils nous connaissent, on les connaît. Petit à petit, là, les Sénégalais diraient « danke, danke ». Vraiment un jour à la fois, un petit pas à la fois. Finalement, quand tu retournes en arrière puis tu vois la différence qui a été réalisée, je suis obligée de vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de villages qu'on vit, ces villages-là, là, d'avoir eu, d'être dans cette relation-là avec notre cégep puis tout ce qu'on y fait.
On parle de formation, de former des individus. Est-ce que la base reste la même?
Moi, je leur dis toujours que on peut avoir des approches différentes, qui ont varié, qui sont venues un peu changer la manière dont on enseigne et dont on propose aux étudiants d'apprendre. Mais dans le fond, je veux dire, la formation, moi, j'ai été éduquée dans un système de formation qui ressemble à peu près à ce qu'ils ont en Afrique, c'est-à-dire beaucoup de magistral, puis la façon d'évaluer les connaissances et tout ça. J'ai pas été complètement mal formée non plus, là. Ça fait que là, faut quand même voir que tout ce qu'on fait, c'est pas nécessairement mauvais. Mais je crois que la société dans laquelle on est force à modifier nos façon de faire. Ne serait-ce que, par exemple, moi, j'ai été élevée dans la rareté de l'information. Il n'y avait pas beaucoup de livres, il n'y avait pas beaucoup d'informations qui étaient disponibles. Quand on avait une encyclopédie dans la maison, c'était quasiment un trésor. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette réalité-là. On est au contraire dans une surabondance d'informations. Ça fait que ça ne peut pas faire autrement que de nous amener à dire, ben moi, si je veux former un technicien en énergie solaire, ben là, et on va faire avec le fait qu'il a les informations quand même qui sont accessibles, puis c'est plutôt d'y apprendre à faire avec toutes ces informations-là pour bien faire son travail. Puis c'est toujours une question de choix aussi, je trouve, jusqu'à un certain point, oui, de l'enseignant.
L'humain reste l'humain.
L'humain reste l'humain. On va dans ces pays-là, puis oui, c'est différent, mais fondamentalement, c'est des gens pareils comme nous autres qui veulent que leurs enfants aillent à l'école, qu'ils se trouvent un travail, qu'ils soient heureux. C'est les mêmes aspirations fondamentalement que les nôtres.
Il y a plusieurs volets à l'aide internationale dans laquelle vous participez, celui de la formation dont vous avez parlé, la pédagogie, ainsi de suite, l'ingénierie, mais il y a aussi la formation offerte aux enseignants et l'accompagnement.
Au Sénégal, j'interviens plutôt d'un projet de développement communautaire, mais à soutenir les formateurs. Parce que d'un projet de développement communautaire, La dimension de développement des capacités des gens, c'est toujours important. Donc, même si on n'est pas dans une école, on est dans un village, si, par exemple, on veut que les femmes s'approprient le fonctionnement puis la réussite d'une unité de transformation, d'une petite usine de coquillages, poissons, fruits de mer, etc., ça passe par des capacités. Je les accompagne, les gens qui doivent former ces femmes-là dans cette dimension-là de leur travail, qui est un travail de formateur. En Tunisie, je travaille plus exactement avec des établissements de formation qu'on appelle des ISET, là, des Instituts supérieurs d'études technologiques. Je travaille avec des gens dont c'est le métier là, d'enseigner, de diriger des écoles, d'avoir des étudiants à cœur de jour. C'est pas exactement les mêmes contextes d'intervention, même si ces projets-là, j'en ai déjà fait au Sénégal aussi, entre autres dans le plus gros lycée du Sénégal qui est à Dakar, qui s'appelle le lycée l'Imam Oulaye à Guédiouaye, en banlieue de Dakar, que j'ai souvent visité. Et un autre, un petit lycée technique agricole en Casamance, le lycée de Bignona. C'est différent parce que le système est un petit peu différent, mais c'est toujours un peu calqué sur la France. Puis c'est différent aussi parce que c'est pas le même niveau de richesse non plus. Là. La Tunisie est quand même un pays à revenus intermédiaires si on le compare au Sénégal, là, un peu moins fortuné. Il y a quand même des parallèles parce que c'est des pays de religion musulmane. Ça fait que ça colore quand même considérablement la société. Je me dis, est-ce que je vais y aller pendant le ramadan? Est-ce que j'attends que le ramadan soit fini? Voilà.
Vous y voyez l'accès aux études aujourd'hui en 2023 chez les femmes aussi accessible que chez les hommes?
Je pense que c'est pas tant l'accès aux études comme l'accès au travail. Puis dans le cas de la Tunisie, le drame de l'intégration au monde professionnel, c'est pas juste pour les filles, mais il est plus marqué pour les filles. Le défi de trouver un emploi puis de faire son chemin finalement. Il y a aussi le problème d'une économie là qui n'arrive pas en Tunisie à offrir toutes ces opportunités-là aux jeunes femmes, aux jeunes diplômés. Mais en même temps, il y a tellement de modèles de femmes brillantes, actives, professionnellement, qui se démarquent. Je fais confiance à ces femmes-là pour y arriver. Là. Ils y travaillent vigoureusement.
Quand vous arrivez de vos missions, vous avez des moments mémorables, mais c'est à la fois aussi difficile de quitter. Vous lâchez prise facilement?
Moi, c'est un des grands apprentissages de mon travail dans les pays du monde, c'est trouver l'équilibre. Tu peux pas mettre toute ta satisfaction dans l'atteinte à 100% des objectifs, toi, parce que tu vas péter aux frettes, comme on pourrait dire, de dire « j'espère qu'on va atteindre nos objectifs », puis aussi une espèce de « ben, je vais m'adapter, ça sera comme ça sera, la limite, je lâcherai prise, oui, mais pas trop ». Ça fait que c'est comme de mettre ton curseur quelque part sur la barre entre les deux là, pour trouver un équilibre, que tu donnes le meilleur pour ce projet-là, puis en même temps que tu ne te rendes pas malade si tu n'arrives pas à tous les résultats auxquels tu voudrais arriver.
Yvonne Langford, c'est l'heure de la pause. Vous avez choisi de la musique classique offerte par un contemporain.
Dmitri Shostakovich, c'est un compositeur russe. On l'identifie beaucoup autour de la guerre ou un peu après la Deuxième Guerre mondiale. C'est un génie de la musique. C'est un espèce de Bach du 20e siècle. Thank you.
On est de retour avec Yvonne Langford. On parle d'enseignement, de coopération internationale. Il y a certainement des événements au cours de ces voyages très formateurs, tant pour eux que pour vous, je pense bien, qui vous a marqué.
Oui, mais je dirais chaque voyage me donne. Je sais pas comment expliquer ça, là, mais je pense à la limite plus que ce que je vais donner, je retire de ces voyages-là, de ces rencontres-là. Je porte encore une rencontre que j'ai faite en Haïti, fin des années 2010, le 2018, je pense, autour de ça, où j'ai rencontré effectivement là, des grands éducateurs qui sont un peu différents de moi, mais là, parce qu'on est en Haïti, forcément, c'est un monde qui est différent. Donc, ce sont des prêtres, ce sont des pédagogues, un directeur d'école, deux frères, Jean-Nicolas et Jean-François Printemps. Un qui est professeur d'université à Port-au-Prince et l'autre qui dirige une école primaire secondaire dans la ville des Cayes, dans le sud. Ce qui m'éblouit de ces deux personnes-là, c'est à la fois leur vive intelligence, leur qualité de pédagogue là, qui est absolument époustouflante. Chaque fois, là, j'essayais de me dire, bon, là, je vais rencontrer Jean-Nicolas, qu'est-ce qu'on va se partager? Puis, tu sais, c'était toujours éblouissant d'intelligence, de clarté, de réflexion aboutie, là. J'avais toujours énormément de plaisir à travailler avec eux. Puis aussi, c'est des gens qui sont dévoués, là, parce que c'est des gens qui ont des doctorats, qui sont allés chercher en Europe ou ailleurs, qui pourraient très bien dire, ben, moi, je vais me tirer de cette situation trop difficile, je vais me trouver un emploi ailleurs. Mais non, ils restent chez eux et là. J'ai rien du tout contre ceux qui se déplacent, là, c'est pas du tout ça. Mais ils restent chez eux pour faire une différence, pour travailler auprès de leurs frères et de leurs sœurs en éducation. Il y a là un degré d'engagement, d'oubli de soi, de don de soi, là, qui est vraiment absolument extraordinaire. Et ils font une immense différence dans des conditions on ne peut plus difficiles. C'est ce qui m'a amené là, à un moment donné, à me dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on peut faire ici? Puis à faire une campagne de financement, puis on a envoyé le monde des îles et d'ailleurs, au-delà de 30 000 $ et plus là, qu'on a envoyé en Haïti, puis qu'ils l'ont vraiment pu mettre à profit. On a le sentiment que c'est comme une goutte là, dans l'océan des besoins, mais ça fait vraiment du bien, puis c'est vraiment directement appliqué sur les besoins là-bas.
Pour ces personnes-là, ça fait une immense différence.
Absolument, là. Y compris pour les jeunes, là, ça fait une grosse différence pour eux. C'est tellement du bon monde, là. C'est vraiment un privilège, je trouve, de faire la connaissance de ces gens-là.
Yvonne Langford, abordant en terminant un dernier volet de votre personnalité passionnée, les communications. Vous avez pris part à la vie sociale, mais aussi publique, en émettant des avis, des positions, des commentaires. Vous avez osé émettre des opinions publiquement, puisque la société, le politique en général, vous anime.
Une des peurs les plus grandes chez l'être humain, c'est de s'exprimer devant le monde. C'est ce que toi et moi, on connaît pas tant que ça. J'ai été une voix à un moment donné qui était assez présente à la radio. Quand je communique puis que je fais une lettre dans le radar, mais c'est parce que j'ai quelque chose à dire, j'ai une opinion à communiquer.
Est-ce que vous étiez consciente que vous aviez un rôle social à ce moment-là, nécessairement une personnalité publique?
Quand il y a une madame du Havre qui appelle chez nous pour me féliciter d'avoir dit ou écrit quelque chose, le type, et que je la connais pas, je me dis « Ah, tiens ». Ou quand je vois, je sais pas, là, chez Home Hardware au Havre-Robert, puis qu'il y a une madame qui dit « C'est toi, Yvonne Langford », puis elle dit « Ben, je te félicite d'avoir eu le courage de le dire ». Là, je me dis « Ah, tiens ».
Vous exprimez a pris différentes formes, et maintenant, c'est la forme d'un blog sur Internet depuis déjà un certain moment.
Ça fait quand même un bon bout de temps, là. Je l'ai lancé, je crois, en 2012. Ces derniers temps, on dirait que c'est moins en politique ou dans les enjeux sociaux, puis c'est peut-être davantage dans des histoires ou dans ce que je pourrais appeler plus franchement le domaine de la créativité, là, si je peux prétendre à ça. On est dans une société où il y a tellement de bruit, là, il y a tellement de sources d'informations, il y a tellement, à la limite, être entendu, c'est pas si évident que ça. Heureusement, à la limite, j'appartiens à une petite communauté, ce qui fait que si j'écris une lettre dans le radar, tu sais, puis même à ça, on peut se demander, l'autre, le radar, puis dans une moindre mesure, la radio, mais que deviendront nos médias traditionnels? Tu sais, c'est quand même une grosse question. Puis là, ben, je suis beaucoup moins active sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Je trouve qu'il y a un côté bien intéressant et tout ça, mais il y a un côté qui me rebute aussi. de plus en plus, je me dis, je crois que le luxe dans notre société, c'est de vivre en dehors, justement, du regard public sur nous tout le temps, là. Pas sûr que ça fait du bien tout le temps, là. C'est comme des fois, si je voyais que notre société allait comme entourée de miroirs, les gens se regardent. Il y a quelque chose qui participe au narcissisme, puis à mon avis, à bien des écueils et des problèmes de notre société d'aujourd'hui, puis sans tout mettre sur les réseaux sociaux.
En terminant, quels sont vos points d'ancrage pour l'avenir?
C'est certainement le monde d'où je viens, tu sais, ma famille, ma grande famille, ce que beaucoup de Madelinos de mon âge ont connu aussi. Les îles, ça fait drôle. Vous venez de me questionner sur mon travail à l'international, mais quand je suis là-bas, ça fait juste mieux me faire comprendre le monde auquel j'appartiens. Y être encore plus attaché. Il y a beaucoup de questions que je me pose par rapport à ce que les îles sont en train de devenir. Il y a quelque chose de fondamental qui est en train de changer dans notre monde et dans notre monde des îles de la Madeleine. Je suis pas de celles qui veulent tout garder pareil parce que c'est pas possible. Puis on a toujours changé. Les îles sont pas les mêmes, puis ont pas été les mêmes que les années 80, puis que les années 50, puis que les années 20, là. Mais n'empêche que si on réfléchit où ce qu'on est rendu, puis où ce qu'on s'en va, puis par où on aurait intérêt à aller, j'ai l'impression qu'on a des belles grosses questions à se poser, ne serait-ce que la question de la culture. Qu'est-ce que le fait d'être Madelinon insulaire veut dire aujourd'hui? Ça peut pas faire autrement que d'être en train de changer, puis des fois je me demande si on en prend la mesure. Je continue de penser que on est mieux dans une société du partage, puis dans une société qui tend à l'égalité plutôt que dans une société qui est peu intéressée par ces questions-là. Les inégalités croissantes, c'est quand même un chemin, je pense, qui nous mène pas quelque part de très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui démontrent comme une espèce d'hypersensibilité du soi. Puis on dirait qu'on arrive comme dans une société qui est une somme de singularités, une somme d'individus. Mais pour moi, c'est pas ça qui fait une société. De trouver le global, de trouver l'universel, de trouver qu'est-ce que j'ai de commun avec l'autre, comment je peux établir une solidarité avec lui. Essayer de comprendre l'autre, puis peut-être bien que ça va me faire un bout de chemin moi aussi. Faudrait faire bien attention de pas perdre ce qui finalement est le ciment d'une société, c'est les intérêts communs qu'on a, là. Puis ça, c'est vrai à tous les niveaux, là. On peut y penser juste pour nos petites îles, mais aussi pour beaucoup plus large.
Merci à Yvonne Langford. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On se donne rendez-vous très bientôt avec une autre histoire.